Avoir raison avec Robespierre. Cette phrase, il faut vouloir et pouvoir la prononcer. L'historien Marc Bloch nous avait mis en garde dans son ouvrage posthume Apologie pour l'histoire. Robespierriste, anti-robespierriste, nous vous crions grâce par pitié. Dites-nous simplement quel fut Robespierre. Une saine exhortation qui ne fut pas mise à l'ordre du jour en 1989, lors du bicentenaire de la Révolution. Commémoration qui prit des allures de fête populaire dans beaucoup de villes et de villages de France, mais plaça Robespierre au cœur des débats politiques. 1989 était certes la date choisie par l'État et le président de la République de l'époque, François Mitterrand, pour célébrer la Révolution. Mais c'était aussi l'occasion d'une querelle historique entre partisans d'une révolution des droits qui aurait dû s'arrêter aux portes de la terreur et défenseurs d'une révolution tout d'un bloc. Une querelle alimentée par les craquements d'une Europe communiste en voie de désagrégation à l'Est et par la révolte des étudiants de la place Tiananmen à Pékin. Que venait faire Robespierre dans ce moment d'actualité commémorative? Pourquoi chacune et chacun fut sommé de dire s'il fallait avoir raison avec Robespierre? Robespierre, incarnation de la Révolution, c'est le premier épisode de cette série, en compagnie de Stephen Kaplan, professeur émérite d'histoire à l'université de Cornell aux États-Unis, historien du social au XVIIIe siècle, qui suivit toutes les commémorations de 1789 et qui vit la part qui prenait justement la figure de l'avocat d'Arras.
Jetez vos yeux sur cette classe qu'on désigne avec mépris par le nom de peuple.
Ah, c'est son nom, c'est son nom véritable.
C'est le peuple.
C'est comme ça qu'on l'appelle.
Et vous, qu'un citoyen soit parmi vous un être rare,
vous qui dégradez.
Comment il s'appelle, lui?
Je l'ignore. Je ne connais que Mirabeau.
C'est un avocat. Il défend l'égalité. On ne sait pas si c'est Robespierre ou Robespierre.
Vous qui dégradez la plus grande partie du genre humain par les mots de canaille, de populace. Cette multitude d'hommes dont je défends la cause ont des droits qui ont la même origine que les vôtres. Qui vous a donné le pouvoir de le leur ôter?
Suffit!
Monsieur de Robespierre, vous êtes un prédicateur de l'anarchie. Voulez-vous une assemblée de mendiants? D'orphelins?
Taisez-vous, vous traînez misère.
Silence dans les tribunes!
Silence les tribunes!
Il n'y a pas deux manières d'être libre. Il faut l'être entièrement ou redevenir esclave.
Passons à l'ordre du jour, si vous quittez la salle. Partez.
Vous pouvez donner des lois aux citoyens, mais vous ne pouvez pas les anéantir.
Un extrait d'un discours de Robespierre incarné par Louis Garrel dans le film de Pierre Scheller, Un peuple et son roi. Bonjour, Stephen Kaplan.
Salut, Emmanuel Laurentin.
Ça fait très plaisir de vous revoir depuis longtemps. Nous avons une sorte de complicité qui dure depuis pas mal d'années autour justement de ce 18e siècle et autour de la Révolution française. Alors, commençons avec vous sur cette période particulière qui était le bicentenaire de la Révolution, sur laquelle vous avez écrit avec ce très beau livre qui s'appelle « Adieu 89 ». C'était chez Fayard, donc juste après ce bicentenaire. Et vous y avez raconté justement les péripéties de cette figure de Robespierre. Quelles étaient ces péripéties?
Robespierre incarnait pour les uns et pour les autres. Incarnant la Révolution, Robespierre était le mal. Incarnant la Révolution, Robespierre était le bien. Et puis, il y avait d'autres qui disaient, mais non, c'est pas de tout ça. Robespierre était une figure aberrante. Robespierre était un narcissiste. Robespierre était un homme pervers, un ascète, bizarre. Et puis, toutes les analyses sexuelles, psychologiques étaient permises pour expliquer pourquoi il souhaitait un monde autre, un monde peu naturel, un monde étouffant. C'était évidemment une figure qui pouvait tout, qui pouvait incarner tout. Et je l'ai rencontré quand j'étais un jeune étudiant, en le retrouvant en 89. J'étais étonné par la puissance qu'il exerçait toujours, par sa radioactivité, par sa toxicité pour les uns, et par le rôle qu'il jouait de bon messager. Car Robespierre était pas simplement quelqu'un qui incarnait, mais qui annonçait.
Alors, vous racontez par le menu ces commémorations du bicentenaire de la Révolution dans Radio 89, Steven Kaplan, et vous y racontez, par exemple, l'échec du baptême d'une place de Thionville au nom de Robespierre. Il y avait un personnage dans la ville de Thionville qui aurait voulu qu'une des places de la ville puisse s'appeler place Robespierre. On sait combien il n'y a pas de place ou de rue Robespierre à Paris, par exemple, et très peu dans le reste de la France. Et il a essayé, à l'occasion de ce bicentenaire, de baptiser cette place, et ça n'a pas marché d'une certaine manière parce qu'il y a eu trop d'opposition. Pour quelles raisons ne veut-on pas nommer justement un lieu de France, du nom de Robespierre?
Il faut dire que l'agent immobilier marxisant qui a, disons...
porté ce projet.
Qui a porté le projet, qui a provoqué cette grande querelle, était quelqu'un de... un type très intéressant, un type assez érudit, un type qui était marqué dans sa propre carrière par Robespierre. Et il croyait, lui... Qu'on a pu maintenant, parce que je lui ai parlé, il a dit non, mais ça m'a étonné que ça a incité ou suscité une querelle qui était plus qu'une querelle, c'était une vraie guerre de religion. Il y avait des gens qui le considéraient comme complètement fou de vouloir faire cela, que Thionville était un lieu irénique, un lieu de paix, un havre de consensus et de bien-être. Pourquoi vous voulez faire entrer chez nous ce diable? Et il répondait, mais Robespierre, c'est la vertu, c'est l'espoir, c'est la fraternité. Comment ne pas, justement, quand on fête ou commémore, les deux notions évidemment sont en tension, l'évolution française, comment ne pas faire de Robespierre quelqu'un de formidablement à présent?
Parce que dans Adieu 89, vous racontez ces cérémonies multiples du bicentenaire de la Révolution en 1989. Et aujourd'hui, où on renverse les statues, vous avez cette notation très fine. Vous ne saviez pas qu'on allait renverser les statues plus de 30 ans ou 30 ans plus tard. Il n'y avait pas tellement de statues de Robespierre à renverser, dites-vous.
Ouais. Il y avait très peu, d'ailleurs. Il y avait une tentative à Arras, qui était sa ville natale. Mené par Georges Lefebvre, grand historien de la Révolution française, qui lui avait perdu un frère marxiste, mais résistant pendant la guerre, qui identifiait son frère avec Robespierre, avec toute cette tentative d'apporter la justice. Et après avoir vu que la plaque qu'avait apportée son prédécesseur Albert Mathiez pour marquer la maison de Robespierre avait été enlevée par des vandales, Lefebvre arrive avec un statut appuyé par beaucoup de Parisiens, donc une partie de conseil de Paris, et ce statut était caché derrière d'autres statuts n'a pas pu...
être posé.
Comment dire, être posé et surtout radier ou résonner, ou retentir, car c'était un petit secret plutôt dangereux qu'il fallait empêcher d'éclater.
Alors il faut dire que pendant ce bicentenaire de la Révolution, à l'époque le Parti communiste est encore un parti très important, il va porter la figure de Robespierre, et d'ailleurs récemment encore un numéro spécial de l'Humanité a été consacré à Robespierre, il va porter cette figure de Robespierre avec Claude Mazory qui était un historien communiste qui a tenté justement partout en France de faire des dizaines et des dizaines de conférences autour de Robespierre et également de Gracchus Babeuf, mais que le Parti socialiste qui était au pouvoir à l'époque était profondément divisé. En vous lisant, il y avait d'un côté Max Gallo qui disait « Dans la nébuleuse socialiste, on n'ose pas se déclarer robespierriste, on n'ose même pas affronter le personnage. » Et de l'autre côté, il y avait Marcel Debarge, par exemple, qui était un secrétaire national du PS, qui disait « Moi, j'aime Danton parce que j'ai toujours eu un faible pour les gens qui vivent, qui baisent, qui savent allier l'engagement idéaliste au sens des réalités. Le côté illuminé de Robespierre me fait froid dans le dos. » Et souvent, François Mitterrand aller manger dans un restaurant du Pré Saint-Gervais avec Marcel Debarge. Donc il y avait cette tension, cette séparation, cette idée que Robespierre ne pouvait pas, disons, satisfaire tout le monde au Parti Socialiste, qui était le parti majoritaire pendant le bicentenaire.
Le Parti Socialiste, même avant de devenir le Parti Caviar, était un parti qui avait toujours cette forte tentation dantoniste. Dantoniste non pas dans la corruption, qui, pour certains, était la marque de Danton, cette volonté non seulement d'arranger les affaires, mais d'être payé pour cela. Mais Danton incarnait, en revanche, ce désir de bien manger. Danton disait, un Geoffrey Chambertin vaut une bonne loi. Et il y a certains socialistes, je crois, qui étaient d'accord. Danton était opposé à Robespierre par Alphonse Allard, peut-être le premier historien universitaire qui s'occupait de la Révolution française et de ses archives. Et Allard était un dantoniste et non pas un robespierriste. Donc on a quasiment dès le début, historiographiquement parlant, cette opposition. Et les socialistes aimaient mieux un type qui baisait et qui buvait et qui mangeait bien qu'un ascète.
Vertueux.
Vertueux et qui ne voulait pas laisser vivre les autres. C'était ça le soupçon.
Alors, d'ailleurs, à cette époque-là, Robert Banater, vous le notez, dit, parce qu'il y a la possibilité de faire entrer au Panthéon des révolutionnaires, dit Robespierre symbolise la terreur et on ne peut pas mettre la terreur au Panthéon. Cela veut dire qu'on va choisir des révolutionnaires qui sont, disons, moins marqués que Robespierre, même si une partie de la gauche et de l'extrême-gauche tente de faire entrer Robespierre véritablement dans le Panthéon révolutionnaire et le Panthéon français à la hauteur de ce qui a été son véritable rôle pendant la Révolution française et surtout dans la fin de la Révolution française.
Ouais. En 1989, au moment des révolutions de velours, au moment des transitions plutôt pacifiques, il y avait un sentiment généralisé que la civilisation, c'était les gens qui n'acceptaient pas la mort, qui n'acceptaient pas pour obtenir quoi que ce soit, qu'une personne soit tuée. Il y avait cette formule chez les marxistes, mais pas que, pour faire une omelette, il faut casser les œufs. En 89, la plupart des Français étaient sceptiques sur cette notion qu'il fallait casser des œufs. Ils préféraient des gens qui étaient prêts à des orchestrations, à des chorégraphies beaucoup plus douces. Or, Robespierre, c'est soit quelqu'un qui était forcé d'aller à la terreur pour protéger la démocratie, ou c'était celui qui est allé à la terreur parce que, justement, sans la terreur, on ne peut pas envisager le peuple au pouvoir.
Oui, d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait cette grande querelle entre tenants d'une historiographie, disons, traditionnelle de Robespierre, plutôt de gauche, marquée par Michel Vauvel, et puis il y avait également François Furet et le dictionnaire critique de la Révolution française, qui étaient en bagarre, pourrait-on dire, pour pouvoir donner une interprétation à ce bicentenaire, et vous le racontez formidablement bien dans Adieu 89, cette bataille a été assez farouche, avec même d'autres intervenants comme Pierre Chaunu, historien de la réforme et de la conquête des Amériques par les Espagnols en particulier, qui est intervenu autour de la Vendée avec l'idée qu'il a soutenue d'un génocide vendéen commis par les forces les plus extrémistes de la Révolution, évidemment les robespierristes, Stephen Kaplan.
1989, c'est le retour des anti-révolutionnaires. Pas que
des anti-révolutionnaires.
C'est-à-dire tout le monde qui avait le moindre doute, qui avait des hésitations, qui avait des problèmes avec le déroulement. Tous ces gens-là qui, pendant un certain temps, étaient obligés de garder un peu le silence dans une France qui considérait que son passé était un passé progressif et progressiste, ces gens-là, maintenant, se sentaient libres pour prendre la parole. Et c'est ça, peut-être, la chose la plus frappante de ce bicentenaire, c'est le retour, non simplement de la Vendée, mais de tout ce qui relève d'une vision qui dit que la révolution, la terreur commence le 14 juillet. La terreur commence avec 89. Il y avait dans le temps un 89 qui était intouchable, c'était la bonne révolution, Furet commence comme cela, mais il glisse vers quelque chose, à mon sens, beaucoup plus problématique. Et puis il y avait l'autre révolution qui était celle de la folie, celle de l'excès, celle de l'extravagance, celle de la mort et du meurtre. Donc, dans cette logique-là, Robespierre était en quelque sorte inévitable. Il incarnait un courant qui existe depuis le début et qui veut qu'on crée, on impose le bonheur aux Français. Et ce geste-là pour Fioré, pour d'autres, c'était le début du totalitarisme.
Et pour vous, d'une certaine manière, qui avez regardé ça avec la distance de l'historien du XVIIIe siècle et du social que vous êtes depuis longtemps, Steven Kaplan, vous pensez que ce moment du bicentenaire, comme vous venez de le dire, est le moment où la renaissance de la contre-révolution est flagrante, en tout cas son écho, parce qu'évidemment, à l'occasion de ce bicentenaire, des numéros spéciaux de tous les journaux, des éditions très nombreuses de tous les écrivains et auteurs qui ont travaillé sur la Révolution française, des commémorations multiples dans tout le pays, qui ont d'ailleurs la plupart du temps surpris même les initiateurs de voir autant de ferveur autour de la Révolution française, tout cela marque ce moment de renaissance de la contre-révolution ou du discours contre-révolutionnaire ?
Certainement. Je crois qu'on est arrivé à une logique fraternelle, quelque part. Un quart d'heure pour les révolutionnaires, un quart d'heure pour les anti-révolutionnaires. Et c'était presque cela. Et j'étais étonné moi-même de voir le cas qu'on faisait d'une résistance à des valeurs qui me semblaient plutôt consensuel dans l'auto-représentation des Français et ces valeurs-là étaient mises en question. Donc on a cette idée que vouloir le bonheur, vouloir organiser ce bonheur, vouloir même évoquer la question sociale dans un contexte où ça devrait être subordonné à la liberté dans toute chose, individuelle, commercial, moral, que tout ça crée un argument auquel je m'attendais. Je ne m'attendais pas à trouver cet affrontement-là. Je m'attendais plutôt à trouver des tendances révolutionnaires diverses. Donc, il y aurait des brisotins qui allaient dire que Robespierre était un opportuniste. Il attendait la guerre pour dire qu'il était contre la guerre. Il attendait l'esclavage pour dire qu'il était contre l'esclavage. Et puis, en ce qui concerne son hostilité à l'exécution capitale, ça, c'était évidemment quelque chose de passagère. Moi, je m'attendais à cela. Au lieu d'avoir cela, j'ai trouvé des blocs extrêmement forts et une voix et une vision contre-révolutionnaire très articulée, très élaborée, très effrayante.
Alors, il y avait, par exemple, le sociologue Pierre Sansot, que nous aimions bien sur France Culture à cette époque-là, qui disait « Pourquoi pas de commémoration du pire pour rappeler le monstre qui sommeille en nous ?» C'est-à-dire cette idée que si on commémorait justement la terreur, si on commémorait donc Robespierre et les robespierristes, si on commémorait les hébertistes, si on commémorait tous ceux qui ont participé à la montée en violence politique dans la société des années 1793-1794, bien d'une certaine façon, on serait plus ou moins prémunis ou du moins prévenus que en chacun de nous, même des opposants à la peine de mort comme Robespierre, pouvaient se convertir.
Oui, c'est peut-être un peu facile. Mais aujourd'hui, quand on dit le mot terroriste, et même en 89, quand on disait ce mot-là, ça faisait peur dans le dos. Ça, l'idée même de penser terreur, ça semble quelque chose... C'était un dérapage au mieux et au pire, c'était justement... cette espèce de retour de refoulé, le monstre qui revenait. Or, la terreur de Robespierre, la terreur des Français, me semble-t-il, n'avait rien de cela. Je crois que même si la thèse des circonstances, comme on disait, doit être débattue et peut-être reformulée, je crois qu'il y avait de fortes raisons pour la France de passer à une système d'affrontement plus pensé, plus organisé, qu'on appelle plus tard, quelques mois plus tard, la terreur, que de se laisser avoir par l'ennemi de l'intérieur, la Vendée et les aristocrates qui partaient des centaines et centaines d'officiers de l'armée, etc. Ça, c'était un vrai problème. Comment défendre la France contre l'ennemi à l'extérieur et à l'intérieur? Bon, ça, c'est la terreur. La terreur va plus loin, parce qu'il s'agit aussi de concilier la vertu et la liberté. Et pour Robespierre, évidemment, il n'y avait pas de liberté. sont vertueux.
Alors, vous avez beaucoup d'humour et quand vous écrivez, on le sent cet humour. Vous avez titré un de vos chapitres de Adieu 89 qui raconte le cours du bicentenaire de la Révolution. Stephen Kaplan, ligne directe pour le bicentenaire composé 93, 89, 1917. Vous les avez rappelé tout à l'heure combien justement on reprochait aux robespierristes et à Robespierre d'avoir été adulé par une partie de l'extrême gauche et en particulier par Lénine, puisque le Figaro titrait à l'époque « Lénine se disait robespierriste ». Donc d'une certaine manière, puisque ceux qui avaient commis des crimes multiples pendant le XXe siècle se disaient robespierristes, eh bien Robespierre était donc marqué de ce sceau d'infamie. Mais cela fait partie effectivement de cette façon d'écarter Robespierre et de se débarrasser de Robespierre pendant le bicentenaire de la Révolution française.
Mais tout était bon, enfin, c'est-à-dire toutes les téléologies, toutes les tautologies, parce que Lénine admirait Robespierre, évidemment Robespierre était un léniniste avant la lettre, puisque les stalinistes, pareil, Robespierre était évidemment extrêmement sensible à leur ligne. C'est de bonne guerre, mais c'est aussi une guerre un tout petit peu... comment dirais-je, un tout
biaisé.
Peu biaisé, et puis cette piètre guerre, c'est une guerre qui n'est pas à la hauteur. Robespierre nous a laissé des milliers de pages de discours. Robespierre nous a laissé pas mal de lettres. C'était un type compliqué. C'était un type qui sortait d'une famille quand il était petit, qui était cassé, qui sans doute était marqué par l'absence de sa mère, par l'absence de son père qui était quelqu'un de pas très bien. On peut faire un tas d'analyses de ce genre-là. C'est un garçon qui, jeune, semble avoir été fasciné et par le rôle public qu'il pouvait jouer, par la loi comme instrument d'égalisation dans la société. La révolution arrive, il dit « je veux faire partie de cela » et quand on suit son caractère et quand on suit son
parcours,
on voit que c'est quelqu'un finalement qui me semble pas ne déborde pas depuis le début. C'est pas quelqu'un qui annonce dès le début qu'il faut des massacres, qu'il faut une purification des impurs, qu'il fallait quelque chose d'abominable pour arriver à quelque chose de bien. Je crois que quand on regarde systématiquement ce qu'il a fait, c'était un travail sous une pression énorme en faveur des objectifs relativement modestes. Il n'était pas contre la religion, il n'était pas contre les prêtres, il n'était pas contre une certaine respect pour les us et coutumes des paysans. Donc, il me semble que c'est utile de peser en Robespierre, qui est un homme compliqué.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 1989 et ce bicentenaire dont nous parlons depuis le début de cette émission, Stephen Kaplan, tout cela a évolué, tout cela a changé. Le communisme n'a plus la figure qu'il avait en 1989. Les pays communistes sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ces questions-là ont profondément été bouleversées. Et d'une certaine manière, on a vu revenir Robespierre par la petite porte depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, justement pour décrire ce que vous nous disiez actuellement, c'est-à-dire cette figure qui est plutôt modeste et non pas un tyran assoiffé de sang dès l'origine. Tout cela, c'est le travail des historiens qui l'a fait, et peut-être une sorte d'apaisement, ou au contraire, de façon d'écarter carrément, non pas Robespierre, mais la Révolution française de nos références.
De toute façon, en France, il y a toujours cette volonté de ne pas affronter complètement et surtout de ne pas assumer complètement l'héritage révolutionnaire. Aujourd'hui, ce garçon, avec sa perruque, avec l'attention excessive qu'il fait à son maquillage le matin, avec ses manières un tout petit peu de dandy, avec son ambiguïté sexuelle, avec une façon extrêmement... manière, et il n'est pas sympathique. C'est difficile de trouver en lui quelqu'un qu'on veut imiter, qu'on veut émuler. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des surmois, on n'a plus besoin des figures qui, en quelque sorte, sont là pour nous ramener vers un sentiment de conscience. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait dire on n'a plus besoin de Robespierre. En même temps, si on regarde la France depuis quelques jours, quand on voit l'extrême difficulté de tisser et puis de garder le lien social, quand on pense à la grande difficulté, en quelque sorte, d'inculquer une notion de vertu qui n'est pas ringarde et qui est liée au rôle de citoyens et qui permet aux gens de se parler entre eux pour arriver à des solutions communes, tout ça, ça relève justement de l'agenda de Robespierre qui comprenait que l'essentiel, surtout, c'était que les gens savent vivre ensemble et que la liberté soit une question non pas personnelle à la Mirabeau, mais sociale, collective, qui nous concerne nous tous. Et quand il y a trop d'inégalités, quand il y a trop d'injustices, il n'y a pas liberté et évidemment il n'y a pas fraternité.
Oui, Mirabeau qui disait ce garçon... croit ce qu'il dit, il ira loin, au tout début de la Révolution française, ouais. Quand il entendait ce jeune Robespierre que personne ne connaissait, effectivement. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, même si c'est par la figure du monstre dont on parlera à la toute fin de cette semaine avec Jean-Clément Martin, eh bien, on se souvient plus de Robespierre que de Mirabeau.
Bien sûr. Bien sûr, Mirabeau, au début, c'était quelqu'un d'exalté, c'était un père senior, si je puis dire, qui allait nous guider, qui était expérimenté, qui savait parler à la cour, qui savait parler au peuple, mais c'était un type douteux. Et c'était un type qui ne voulait pas, lui, incarner quoi que ce soit, sauf une vision, disons, quasi familiale. Robespierre, il vient de nulle part. C'est quand même quelqu'un qui est un outsider. C'est un provincial, c'est un petit. Lui, il connaît bien la France d'en bas. Il connaît bien ce monde-là. Et il dit avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de narcissisme, « Moi, je suis le peuple. Je suis le peuple. »
Ça sera le sujet de l'émission de demain, justement.
Voilà. Or, là, c'est quelque chose d'assez énorme de sa part. Mais en même temps, c'est assez génial parce qu'il comprend bien qu'il faut donner au peuple un statut.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, j'ai raison avec Robespierre, Stephen Kaplan ?
Je crois qu'on peut dire j'ai raison avec Robespierre dans la mesure où Robespierre incarne pour beaucoup de gens cette volonté de défendre une vision, disons, d'une démocratie qui est toujours, par son essence, fragile. La substantifique moelle de l'entreprise de Robespierre, c'était cela. C'était de trouver un moyen pour que le peuple puisse vivre démocratiquement ensemble.
Merci beaucoup, Stephen Kaplan, d'être venu à notre micro pour évoquer cette figure de Robespierre dans cette première émission « Avoir raison avec Robespierre ». Et je peux mentionner que vous avez travaillé non seulement sur la Révolution française, la fin des corporations, récemment sur la question de l'apprentissage, ça vient tout juste de sortir, et puis également, évidemment, sur le pain, le meilleur pain du monde, le nôtre, évidemment. Merci beaucoup, Stephen Kaplan.
Merci, Emmanuel.
C'était Avoir raison avec Robespierre. Aujourd'hui, Robespierre, incarnation de la Révolution. Une émission préparée avec Virginie Leduo, réalisée par Laurence Malonda, avec à la technique Élise Leu et Valentin Bobinet.